Commencer notre cours un petit peu spécial sur le livre de Bérégide aujourd'hui.
Attends, juste deux secondes. Ethan, deux secondes. Si tout le monde pouvait
Fermez les
désactiver son
micros.
micro, parce que sinon on va pas réussir à voir l'heure
Exactement.
qu'ils ont. Désactivez
Et
tous
si
vos micros, s'il
jamais vous avez quelque chose à dire, eh ben vous rallumez votre micro.
Merci beaucoup pour votre bravoure.
Non, tu peux couper ton micro. Attendez, temps mort. Tu peux couper ton micro, ça ne change rien. À ce que tu m'entendes, moi, mon micro, il restera allumé.
Absolument.
OK? Donc juste vous, vous coupez le micro dans le bouton en bas à gauche, comme ça ne résonne pas. Maintenant, si vous avez des choses à dire et intervenir au milieu du cours, évidemment, vous pouvez les rallumer. Mais Monique, tu es connectée avec deux trucs. C'est bon?
Comment il va venir? C'est pas moi là.
Je sais pas, c'est bon? Yala. Donc, on va aller et on va commencer notre cours un petit peu particulier aujourd'hui en Zoom. En Zoom parce que certains d'entre nous ne pouvaient pas être présents. Et donc, nous allons dédier notre cours à la Refoua Shelema de toutes les personnes du cours. Que ce soit la grippe, que ce soit le Covid, que ce soit le rhume, que ce soit j'ai mal aux cheveux, eh bien, dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Taguf, et Mamash Maher, et qu'on puisse se retrouver dès la semaine prochaine. Alors, je sais pas au niveau des bidous de chacun, mais voilà. Amen, 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 Refoua Shelema. Tov! Nous revenons donc dans notre étude du livre de Béréchit et nous sommes arrivés au chapitre 11, verset 10. Je répète, Lucien, il faut vraiment que tu fermes ton micro parce que ça fait des interférences. Mais non, pas voilà. Fermer ton micro, ça veut dire qu'il y a un bouton en bas de l'écran à gauche où il y a marqué mute. Il faut que tu appuies dessus. Non, là, t'es pas en mute. Bon. Non, t'es pas en mute. Si t'es en mute, on voit apparaître dans ton écran, enfin dans ta case, un micro en rouge barré. Mais bon. Bah non, sinon je t'entendrai pas.
Ethan, je ne sais pas si tu m'entends, mais regarde, tu as un moyen de désactiver les micros de tous les participants. C'est dans la fenêtre à droite. Normalement, tu peux faire muet pour tous. Faut que tu enlèves tous nos micros, ils ne savent pas comment
Mais
faire.
je ne sais point non plus. Attends, la fenêtre à droite.
Dans la fenêtre à droite, je suis en train de voir sur Internet, ils mettent dans la fenêtre à droite.
Fenêtre à droite. Je ne
Et ta
vois
patience.
quelle. C'est la technologie, les amis, c'est la technologie. Alors, peut-être que ça va faire
Et
ça.
dans paramètres, regarde dans paramètres, en haut à droite de la fenêtre,
Ouais,
le panneau de
moi.
contrôle des paramètres s'affiche, sélectionnez audio, puis coupez le microphone de la participation à une réunion.
C'est une question. Attends, voir. Non, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Ok. Toi, tu dis.
Paramètres en haut à droite.
Mais j'ai pas de paramètres en haut à droite, moi, vous êtes marrant.
Attends.
Full screen, non, c'est pas ça. Ah, peut-être ça,
Est-ce
attends voir, attends
que
voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là, bon, c'est saoulant. Bon, écoutez, si vous arrivez à pas parler, ça marchera quand même. Ça a l'air, on va réussir. À un moment donné, on va réussir.
Non, Ethan, enfin, respect si tu veux, mais on entend un micro de plus.
Oui, mais je ne saurais que te dire. Je ne sais que te dire.
Attends, limite, viens. Si tu veux, je t'appelle et on recommence une
Non, ça change rien. Ça
réunion.
change rien. Ça change rien,
Ah
ça.
oui, tu rentres.
Tac-tac. Non, ça c'est pas ça. Radio CT. Non, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas quoi vous dire, mais on va faire avec. Hein? On va faire avec. Et puis c'est tout. Yétov. Yétov. Yala. Donc, chapitre 11, verset 10. Nous sommes donc après l'épisode de la tour de Babel. Et donc, quelle est la suite du film? Eh bien, la suite du film est maintenant d'amener à une correction de la tour de Babel. La tour de Babel en elle-même était déjà une correction du déluge, puisqu'on avait vu que l'idéal de la tour était justement de trouver un moyen qu'il n'y ait plus de déluge. En cela, ils avaient décidé de faire deux choses. Un, de s'éloigner du Créateur pour qu'il n'y ait plus de possibilité de me juger. Et deux, eh bien, au-delà de cela, d'unir l'humanité. On a vu quel a été le problème, que c'était plus de l'unicité que de l'unité. C'était véritablement du communisme à l'ancienne. Lucien, je suis vraiment désolé de te mettre la pression, mais c'est vraiment toi qui nous fait de l'interférence.
Lucien, je suis vraiment désolé de te mettre la pression, mais c'est vraiment toi.
Top. Eh ben, je t'ai pas dit de partir. Top. J'espère qu'il va revenir et que tout ira bien. Quoi qu'il en soit, les amis, donc, on avait dit, l'idée était de trouver donc une correction au déluge. C'est ce que la tour de Babel a essayé de faire, mais ça n'a pas marché dans la mesure où c'était du communisme avant l'heure. Il faut donc maintenant repenser l'humanité. Il faut que les hommes trouvent un autre moyen. Nimrod, sa solution à lui, c'était de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. L'objectif maintenant est de trouver le moyen d'être connecté à Dieu. Et peut-être que c'est cette connexion qui nous permettra justement de ne plus arriver aux chutes morales de l'humanité. Et ça va être le rôle d'une famille en particulier, la famille hébraïque. On avait dit la semaine dernière que Hever était prophète. Comment est-ce qu'on a dit qu'il était prophète? Eh bien, tout simplement parce que il a nommé son fils Peleg. En sachant par esprit prophétique qu'à l'époque de son fils Peleg, il y aura la tour de Babel. Et donc, ça veut dire que la famille hébraïque, son rôle est d'arriver à la prophétie. D'arriver à dévoiler la prophétie version à Israël. Alors, rentrons dans les versets directement. Elle est Toledot Shem. Voici les engendrements de Shem, Shem ben Me'at Shana. ויולד את ארפרשד שנתיים אחר המבול. ויחי שם אחרי הולידו את ארפרשד 500 שנה ויולד בנים ובנות. וארפרשד חי 530 שנה ויולד את שלח. ויחי ארפרשד אחרי הולידו את שלח 3 שנים ו400 שנה ויולד בנים ובנות. ושלח חי 30 שנה וילד את עבר. נו כבר, עונה הריבה, העבר. סטילה קונטה הריבה לדן יפו. ויחי שלח אחרי הולידו את עבר 3 שנים ו400 שנה ויולד בנים ובנות. עבר, on a dit il est prophète puisque son fils ויחי עבר 430 שנה, à 34 ans, il enfante de Peleg. Peleg, parce qu'on avait dit, c'est à son époque qu'il va y avoir la tour de Babel. Comment gérer la correction de l'humanité après la tour de Babel? Eh bien, regardez les noms de la famille hébraïque. ויחי עבר אחרי הולידו את פלג 30 שנה ו400 שנה ויולד בנים ובנות. ויחי פלג אחרי 30 שנה ויולד את רעו. Puisque à la génération de Peleg il y a eu séparation à cause de la tour de Babel, il faut recréer la fraternité. Ainsi, le fils de Peleg va s'appeler Reu. Mazereu, Reacha, Ve'afta le Reacha Kamocha, c'est-à-dire la notion de fraternité. On va recréer ça. Ça va être ça l'objectif de la génération de l'après-Tour de Babel. Alors, c'est bien beau la fraternité, mais on peut être frère de très loin. Par exemple, Israël s'entend très très bien avec la Micronésie. Et bon, a priori, nos relations avec eux sont quand même assez restreintes. Et donc, Vayechi Re'u Shtaim Ushloshim Shana Vayoledet Serug. Mais c'est Serug. Serug, c'est comme une kippa sruga. C'est tissé. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement des frangins de loin, mais on est reliés ensemble. On essaye de réunir l'humanité de manière indissociable. Donc, Réhu, et ensuite, Serug. Vayri Réhu, Achéo, Lido, et Serug, Sheva, Shani, Mataim, Shana, Vayoled, Banyu, Banot. Vayri Serug, Shloshim, Shana, Vayoled, et Nachor. Mais c'est Nachor? Nachor, c'est Noach Katan. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de vouloir continuer l'œuvre de Noach, qui lui-même continuait l'œuvre de Adam. C'est-à-dire qu'on veut inscrire la famille hébraïque dans une continuité. Ok? Vayechi Nachor teisha ve'esrim shana vayoledet Tarach. Alors, ça me fait toujours marrer comment est-ce qu'on traduit Terach en français. Vous savez comment on traduit? Taré. Taré. C'est pas mal. Taré. Donc, Terach. La vérité, je ne sais pas ce que ça veut dire Terach. Loyodea. Je peux pas vous dire. Par contre, je sais que Terach, il va avoir 3 enfants. On nous dit, va écrit Terach, Shivim, Shana, va yoled et banim, Ezra, va écrit Terach, Shivim, Shana, va yoled et Avram, vet Nachor, vet Aran. Il y a donc 3 enfants qui deviennent les successeurs de la famille hébraïque. C'est eux qui portent les espoirs de la famille. Avram, Aran et Nachor. Ve'ele toldot Terach. Pourquoi ve'ele toldot Terach? Pour que tu saches que, en fait, toute la paracha commence ici. Tout était là pour arriver au toldot de la famille hébraïque. Ve'ele toldot Terach. Terach olid et Avram, et Nachor, ve'et Aran. Ve'aran olid et Lot. Nous avons un autre personnage qui apparaît en filigrane, il s'appelle Lot. Mais Lot, comme son nom l'indique, il est Loté ba'arafel. Lot, ça veut dire voilé. Pas voilé en mode burqa, mais voilé dans le sens, c'est pas clair. Il ne sait pas encore s'il va suivre le chemin de papa Aran ou de tonton Avram ou de tonton Nachor. Lo pashut. On va voir ce qu'il va faire finalement Lot. Et là, on nous dit Vayamot Aran al pene Terach Aviv be'eretz moladeto be'ur kasdim. Ah! Vayamot Aran al pene Terach Aviv, ça veut dire du vivant de son père. Et donc, cela fait référence à une mort pas naturelle. Puisque dans la nature des choses, c'est d'abord les parents qui partent et seulement après les enfants. Là, on voit que Aran meurt. Vous connaissez tous le Midrash, évidemment, de la fournaise. Nimrod, qui est le roi de Ur Kasdim, d'après le Midrash. Eh bien, lorsqu'il voit que Avraham, le petit Avraham, a fait sa recherche du monothéisme, a brisé les idoles, devient un trouble-fête dans la région. Alors, Nimrod veut tuer Avram. Et il lui dit, si ton Dieu est si puissant, on va voir s'il va te sortir du feu de Our. Il le balance dans la fournaise. Il demande à Aran, est-ce que tu es avec lui ou avec moi? Et Aran répond, on verra ce qui arrive à mon frère. Avram sort vivant de la fournaise. Aran dit, alors je suis avec Avram. Seulement, sa dévotion n'était pas honnête. Et donc, le feu qui a été inoffensif pour Avram va tuer Aran. Alors ça, on connaît le Midrash. Mais la vérité, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller au Midrash. Du tout. Ben non. C'est marqué noir sur blanc. Vayamot Aran al-Penet Terach Aviv. Donc, Aran est mort du vivant de son père. Beretz Moladeto, dans le pays de sa naissance, Be'ur Kasdim. Évidemment que Ur Kasdim, ça veut dire le nom de la ville. Mais Ur, c'est aussi une fournaise. Donc c'est marqué noir sur blanc que Haran a été tué dans les fours crématoires. Ok? Sauf que là, il va falloir qu'on, deux secondes, prenne un petit peu de recul. Nous avons donc une famille hébraïque, porteur d'un message de prophétie, qui va venir d'exil. Bah oui, parce que où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent à Ur Kasdim. Or, Ur Kasdim, c'est le pays de qui? De quel peuple? Bah, des Kasdim, des Chaldéens. Donc les Hébreux n'ont rien à faire en Chaldée. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font là-bas parce qu'ils sont en exil. Quel était le pays des Hébreux? Bah, évidemment, le pays des Hébreux, c'est Israël. Ça a toujours été Israël. Comment le sait-on? Mais rappelez-vous Yosef. Rappelez-vous Yosef, lorsqu'il veut se faire libérer de la prison égyptienne. Il va dire au grand échanson de glisser un mot à Pharaon pour le sortir de prison. Et quel est l'argument qu'il lui dit? Il lui dit, dis à Pharaon que j'ai été kidnappé, gunov gunavti, mi eretz ha'ivrim. J'ai été kidnappé de la terre des Hébreux. C'est comme ça que un haut fonctionnaire égyptien doit aller plaider la cause auprès de Pharaon. Ça veut dire que c'était connu internationalement que la terre d'Israël était la terre des Hébreux. Parce qu'on va pas appeler toute une terre la terre des Hébreux pour 50 mecs qui sont Yaakov et ses copains. Donc c'est connu que la terre d'Israël est la terre des Hébreux. Mais les Hébreux, pour l'instant, ont été chassés de leur terre et ils sont en exil à Ur. Vous comprenez que toute l'histoire d'Abraham, donc des balbutiements du peuple d'Israël, commence sur fond de galout, veyetzia mina galout. Sur fond d'exil et de sortie d'exil. Et évidemment, maase avot, siman labanim. Les actions des pères sont des repères pour les enfants. Pourquoi on nous apprend cela? Bah parce que nevoa sheutzrecha ledorot nirteva, car une prophétie qui sert les générations est écrite. Donc ça veut dire que tout ce qu'on lit maintenant doit nous apprendre à nous quel est le prototype, l'archétype, j'allais dire, de la sortie de l'exil. Donc juste avant la sortie de cet exil-là de Ur Kasdim, on nous apprend que l'antisémitisme va balayer un tiers de l'identité d'Israël. Enfin, de l'identité hébraïque. Je pense que j'ai pas besoin avec ce groupe-là d'aller plus loin dans la comparaison. Je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Juste avant la fin de l'exil, un tiers de l'identité d'Israël se fait massacré dans la fournaise. On sait très bien ce que ça fait dans notre génération. Alors, comment on continue après cela? Eh bien, d'abord, avant, comment on continue? Qu'est-ce qu'elle fait à Ur, cette identité d'Israël? C'est quoi le boulot des Hébreux? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Terach, il fait quoi? Alors, nous le savons, Terach a un magasin d'idoles. Il vend des idoles. Bon, je veux bien, mais on n'est plus au GAN. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, vendre des idoles? Ça veut dire que Terach est le fournisseur de spiritualité. C'est chez Terach qu'on va lorsqu'on veut s'attacher au divin. Alors, ça prend une forme idolâtre, parce qu'on est à Ur Kasdim. Mais tout le monde voit dans l'hébreu, le juif, celui qui me rattache à l'identité divine. Toute ressemblance, évidemment, avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire. Ou pas. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a aussi des milliards d'individus qui se tournent vers un juif mort pour parler au de dimension divine. En d'autres termes, l'hébreu est déjà considéré à l'époque comme étant la source du lien à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi le christianisme a été chercher un jeune juif pour en faire le fils de Dieu. Ça a l'air, c'est pas nouveau. Donc, finalement, que faire? Que faire après que l'antisémitisme ait frappé aussi fort? Vaikar Avram Venachor Laem Nashim. Shem Eshet Avram Sarai. Veshem Eshet Nachor Milka. Bat Aran Avi Milka Veavi Iska. La première chose à faire est de marier. De marier les filles de Aran. C'est-à-dire, on s'occupe des rescapés de la Shoah. Il faut reconstruire les rescapés de la Shoah, les refaire rentrer dans l'identité juive. Donc, ces rescapés de la Shoah, on va les marier avec Aran, avec Avram et avec Nahor. Il y en a une qui s'appelle Milka, semble-t-il qu'elle aimait le chocolat. Et l'autre s'appelle Sarai. Seulement, elle s'appelle un coup Sarai et un coup elle s'appelle Iska. Nous dira Rashi, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Iska? En fait, c'est pas son nom. Mais tout le monde l'appelait Iska, c'est son surnom, parce que Kulam Sochim Beyofia. Elle était tellement belle que tout le monde l'appelait Iska, celle dont on parle. Sarah et Milka se marient donc avec Avram et avec Nahor. Ok. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant que l'antisémitisme est tellement virulent en Pologne, on fait quoi? Vatei Sarai Akara Ein Lavalad. On avait dit que tous les espoirs de l'identité d'Israël, de l'identité hébraïque, portaient sur ses trois enfants, Avram, Aran et Nahor. Aran est mort. Et on nous dit que Avram, sa femme, est stérile. Donc tous les espoirs de la famille reposent sur Nahor. Nahor est la Ava Amina du Ham Israël. Ava Amina, ça veut dire la première idée. Quand on dit dans le Talmud, Mai Ava Amina, c'était quoi l'idée que tu avais à la base? Eh bien, Nahor, c'est l'idée de base pour la poursuite de l'identité hébraïque. Et vu que, bah c'est terrible parce que ça veut dire que c'est vers Nahor qu'on doit se tourner maintenant, et puis vers Avraham. Mais semble-t-il que l'antisémitisme continue, la Shoah n'a pas suffi, il y a eu le pogrom de Kielce juste après, et donc bah les Hébreux ils disent, attends, c'est plus possible. Et donc ils partent. Où vont-ils? Vaikar Terach et Avraham Beno, Vet Lot Ben Aran Ben Beno, Vet Sarai Kalato. Donc Terah prend avec lui Avraham et sa femme, prend Lot avec lui, le rescapé de la Shoah. Vayetzeu itam me'ur kasdim la lechet arza Kenaan. Et il part avec eux pour aller en terre de Canaan. Pourquoi fait-il ça? Mais parce que Terah, il a lu Altneuland. Il a lu l'état des Juifs. Et il sait très bien que seul un pays pour les juifs, juifs, un pays où le peuple d'Israël ne sera plus persécuté, pourra être sa bouée de sauvetage. Donc Terach part en Eretz Kenan avec sa famille. Comment on appelle ça, quelqu'un qui décide de revenir en Israël? Pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons sécuritaires. Ben, un sioniste laïque. Au XXe siècle, ce sioniste laïque s'appelait Binyamin Zeev Théodore Herzl. Maintenant, pourquoi il va en Eretz Kenaan? Ben, parce qu'on a dit, c'est la terre des Hébreux. C'est la terre de ses ancêtres à Terach. Il veut revenir sur la terre de ses ancêtres. Oh, j'imagine que Terach, on lui a proposé aussi l'Ouganda hein, au milieu. Mais à un moment donné, même s'il a pu être intéressé, il a dit non. Imeshkacher Yerushalayim Tishkach Yemini. Voilà ce qu'il dira au congrès de l'Ouganda. Lorsque tout le monde le siffle, il dit, mais on n'oublie pas Jérusalem. Mais pour l'instant, il faut qu'on fasse un truc pour les sauver, les Juifs de Russie. Terach ne cède pas à la pression ougandaise Et Terach veut rentrer dans le pays de ses ancêtres. Son appel est purement sécuritaire, national, technique. Donc Terach est un, ce qu'on pourrait appeler un sioniste laïque. Et Haran, c'est une victime de la Shoah. Lot, c'est un rescapé de la Shoah. Est-ce que c'est une identité en soi d'être rescapé de la Shoah? Ben oui. Oui, aujourd'hui on le voit, on le sait. Les gens qui portent en eux le traumatisme de la Shoah, et toute leur vie, après, tournera autour de ça. Ils transmettront ça à leurs enfants, syndrome de deuxième génération, de troisième génération. On connaît ça très bien. Donc, l'identité hébraïque est formée d'un sioniste laïque, d'une victime de la Shoah, d'un rescapé de la Shoah. Et puis, il y a qui encore? Il y a Avram. On ne sait pas encore trop de choses sur lui. Et il y en a un autre. Il s'appelle Nahor. On l'a peut-être un peu oublié, celui-là. Parce que Terach ne l'amène pas avec lui. Regardez le verset, pour ceux qui ont le texte. Vaikar Terach et Avram beno, et Lot ben Aram ben beno, et Sarai kalato et Avram beno. Qu'il ne prend pas avec lui, il ne prend pas avec lui Nahor. Mais c'est son fils. Pourquoi il ne le prend pas avec lui? Ils veulent aller en Eretz Kenaan. Et la Torah nous dit, Vayavou at Haran, Vayeshvu sham. Ils sont arrivés à Haran et ils sont restés là-bas. Alors c'est le chemin. C'est le chemin, il ne faut pas s'exciter. Ur Kasdim, c'est là. Haran, c'est là. Et Israël, c'est là. Alors vous allez me dire pourquoi il ne fait pas ça? Parce que ça, c'est le désert au milieu. Tu ne peux pas traverser le désert. Donc il faut remonter le Tigre et l'Euphrate, arriver à Haran, la grande ville qui fait la jonction, et ensuite continuer, redescendre par la vallée du Jourdain. Donc c'est normal qu'il passe par Haran. La question, c'est pourquoi il y reste? Pourquoi notre Terach reste à Haran? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsqu'il est arrivé à Haran, il a retrouvé quelqu'un. Ben oui, quand il est arrivé à Haran, il a retrouvé Nahor. Nahor était déjà à Haran, il était parti depuis longtemps. Nahor, il n'a pas vécu la Shoah, puisqu'il a migré aux États-Unis depuis longtemps. Il a senti que ça sentait mauvais de rester à Ur Kasdim. Et il a dit à son père, moi je pars, je reste pas en Pologne. Et son père, il lui a dit, dans les années 20, mais enfin mon fils, mais t'es complètement fou de tenter le rêve américain. On n'est pas bien à Varsovie. Mais Nahor, il part. Il va à Haran, la grande ville. Vous savez, à Haran, on parle araméen. Ce sont des Aramikaïm. C'est la ville du cosmopolitisme. C'est la ville du brassage des peuples. Et là-bas, Nahor, il réussit super bien. Il devient même le roi de la ville, le maire. C'est lui, le patron à Haran. Puisque lorsque Rivka, Eliezer, partira pour trouver Rivka à Haran, la ville de Haran nous est présentée comme étant la ville de Nahor. C'est le patron de la ville. Lorsque Terach arrive, moi j'imagine les retrouvailles. J'imagine les retrouvailles entre Nahor et Terach. Papa, ça nous fait tellement plaisir. On a eu tellement peur pour vous. On a vu ce qui s'est passé là-bas en Pologne. On a eu tellement peur. On n'avait pas de nouvelles. Je suis tellement heureux que tu aies pu t'en sortir. Ah, papa. Alors vous allez où comme ça finalement? Eh bien, mon fils, nous allons Birushalayim. On va faire l'Aliya. Ça y est, on revient sur la terre de nos ancêtres. Et à ce moment-là, je suis sûr que Nahor, il a mis la main sur le cœur et il a dit « Imeshkachech Yerushalayim, Leshana Abba Birushalayim ». Et une fois qu'il a dit ça avec une fausse larme, il a dit « Bon, c'est peut-être pas la peine d'y aller tout de suite. C'est-à-dire, je comprends votre idéal de vouloir rentrer en Israël, mais sérieusement, il y a des Arabes, il y a des Cananéens, ça va être compliqué. Pourquoi vous mettre dans cette situation-là, papa? Restez ici. Restez ici. Moi, je vous arrange tout le truc. Tu vas bosser avec moi, Lot, et tout. Ça va être super. Et finalement, eh bien, ils ne vont pas continuer le voyage vers Sion. Ils vont s'arrêter à New York. Ils vont s'arrêter en Europe. Ils vont s'arrêter dans leur chemin vers Eretz Israël. Et ils vont rester là-bas longtemps. Ouh là là, longtemps. On nous dit, Vayi, yem vayu yemet terach hamesh shanim u mataim shana vayamot terach becharan. Terach finalement restera à Haran. Donc ça veut dire que dans la mosaïque qui s'appelle Am Israël, on a dit on avait un sioniste laïque, c'était Terach, même s'il n'a pas réussi à mener à bien son projet, comme Herzl finalement. On avait un rescapé de la Shoah, une victime de la Shoah. Nous avons également un juif cosmopolite, c'est Nahor. Ce juif cosmopolite, il décide qu'il n'est plus un hébreu. Il est araméen. Comment je sais qu'il est devenu araméen ? Parce qu'à Haran, on devient araméen. Parce que Haran est une ville, cité, état, un royaume, un état, une république qui sait faire des araméens. On parle aramie. D'ailleurs, le fils de Nahor s'appellera maintenant Bethuel à Aramie. Et son petit-fils, Lavan, à Aramie. Ils sont pourtant hébreux à la base, mais ils sont araméens. Quand tu leur demandes s'ils sont juifs ou s'ils sont français, araméens, ils répondent, moi je suis un français de confession hébraïque. Mais je suis un Français de confession hébraïque. Un Araméen de confession hébraïque. Nahor, son plus grand élève aujourd'hui, s'appelle Éric Zemmour. Le plus grand élève de Nahor, c'est Éric Zemmour aujourd'hui. À Rome, soit comme les Romains. À Haran, un Araméen. En France, un Français. Il est le juif cosmopolite. Que manque-t-il dans notre mosaïque du peuple d'Israël ? On a vu Terach, on a vu Lot, on a vu Haran, on a vu Nahor. Mais de qui n'avons-nous pas parlé ? Eh bien, les amis, nous n'avons pas parlé d'Abraham. Qui est Abraham ? Eh bien, les amis, Abraham. Abraham, c'est compliqué. On ne connaît pas grand-chose de lui. À part qu'il est le fils de Terach, on ne connaît pas grand-chose de lui. Bizarre. Et pourtant, le verset qui suit, le premier verset de la paracha de Lech Lecha, nous dit « Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha » comme ça, pouf. Qu'est-ce qu'il a fait Avram pour mériter que Dieu lui parle ? Alors, dans le Midrash, il a fait plein de trucs, Avram. Ah, dans le Midrash, on sait que c'est un hyper tzaddik. Mais c'est dans le Midrash. Dans la Torah, on ne nous dit rien de spécial qu'Avraham aurait fait. Pourquoi est-ce que la Torah nous a occulté toutes les histoires extraordinaires sur Avraham du Midrash ? Bizarre. Parce que si la Torah nous avait énoncé tous les mérites d'Avraham, on aurait pu penser que Dieu lui parle parce qu'il est tzaddik. Seulement non, Dieu va s'adresser à Avraham pas parce qu'il est tzaddik, mais parce qu'il est le dernier descendant des Hébreux. Or, un Hébreu, c'est un prophète, on a dit à l'origine. Nahor a choisi de ne plus être un Hébreu. Donc maintenant, on va parler avec Abraham. Et Abraham, vous connaissez le film. Abraham va recevoir un appel. Un appel d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha. Me'artecha me'latecha me'met avicha el haaretz asher areka. Avraham va repartir en Israël. Mais lui, il ne va pas repartir pour des raisons nationales. Pas non plus pour des raisons de sécurité. Semble-t-il qu'à Haran, ils étaient en sécurité. Mais lui, il part parce qu'il a entendu l'appel divin. Entendre l'appel divin et venir en Israël à Sion parce que la Torah nous l'a demandé, Ben, on appelle ça aujourd'hui un sioniste religieux. Et ainsi, vous avez tout le puzzle qui s'appelle Am Israël. Dans le peuple juif, vous avez des sionistes religieux, vous avez des sionistes laïcs, vous avez des gens qui portent en eux le drame des persécutions de l'exil, et vous avez malheureusement des gens aussi qui abandonnent leur identité d'Israël. C'est tout ça, le peuple juif. Est-ce que vous connaîtriez, par exemple, une autre version d'être juif aujourd'hui qui existerait et qui n'est pas mentionnée dans la Torah ? Oui, non, non, oui ? Peut-être... Attends, sioniste laïque, sioniste religieux, assimilé ou porteur des drames du passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une cinquième identité ? Ben non. Il semblerait que non. Ça veut dire que être religieux et passionniste, ça n'existe pas selon la Torah. Malasot. Ce n'est pas proposé parmi les solutions données par la Torah. Ça n'existe pas un religieux passionniste. Alors quoi ? Il y en a des gens comme ça ? Oui ! Ils sont nachoriens sans le savoir. Et c'est malheureux. Les amis, c'est de cela qu'on parle. Nous sommes en train de voir les balbutiements de l'identité d'Israël. Les balbutiements de notre identité, eh bien, il y a de cela près de 4000 ans, et aujourd'hui, ce sont les mêmes. Nous avons appris de nos pères, et on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Zéakol. Maintenant que Dieu parle à Abraham et qu'il lui dit « C'est bon, tu pars maintenant et tu rentres en Israël », la question est de savoir comment Abraham va réussir ou pas à réaliser le projet divin. Est-ce que Abraham est d'accord avec Dieu ? Dieu lui dit « Vayomer Hashem el Abraham, lech lecha ». Lech lecha, ça veut dire littéralement « va tout seul ». Lech ata, tout seul. Me'artzecha u'mimolatecha u'mbet avicha el haaretz asher areka. Pourquoi je veux que tu ailles tout seul ? Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui pèse lourd dans le game. Puisque Abraham, il a 75 ans. Et il fait quoi depuis soit ses 3 ans, soit ses 40 ans ? Il y a deux avis dans le Midrash. Il convertit des gens. Après avoir découvert Dieu, il convertit des gens. Et est-ce que ça marche, sa yeshiva de conversion ? Ça marche grave. Nous dit le Rambam dans Ilchot Avodah Zara, chapitre 1, que Avraham, il avait alafim ou revavot comme élève. Des dizaines de milliers d'élèves. Avraham, c'est un gourou. Avraham, c'est un rebbes. Avraham, il avait un shtreimel. Et Avraham, quand il avançait, il y avait tout un peuple d'élèves qui faisait Avraham, il pouvait pas avancer. Il avait un chauffeur. Mais bien sûr, il avait un chauffeur. Et puis, il y avait des institutions. Il y avait Mosdot Yad Avraham. Il y avait la yeshiva Bene Avraham. Il y avait le restaurant kasher Achal Avraham. Il avait une ville, bonhomme. Et il réussissait super bien dans sa conversion au monothéisme. Et tout d'un coup, Dieu lui dit, non, tu abandonnes tout ça et tu pars tout seul. Pourquoi y a-t-il cette volonté d'Akadosh Baruch Hu que Abraham abandonne tout ce qu'il a fait ? Et est-ce que Abraham va accepter le nouveau projet divin ? Eh bien, les amis, je pense que ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En vrai, j'espère, en fonction de votre état de santé à tous, mes amis, je vous redis à Groyser et Fouach Leimo, à tout le monde, je ne vais pas énumérer tout le monde, mais vous tous, Refouach Lema, Shlema, Shlema, et qu'on se retrouve très très vite, en vrai, pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas combien de temps de bidoud vous devez encore avoir, mais qu'ils seront fait un point la semaine prochaine. Encore 10 jours. Encore 10 jours.
Une semaine.
Une semaine. 9 jours.
Ouais.
Il va à Voy. Mais quelle idée aussi de tomber malade, franchement.
Tav.
Nounou, Asheir et Foua Shalema, l'essentiel c'est que vous alliez bien et que vous vous remettiez doucement chacun. Et comme ça, après, vous serez avec un Tav Yarok encore plus long. Et comme ça, c'est très bien. Et Bezrat Hashem, on se retrouve très vite en vrai quand on peut. Voilà, les amis.
Bonne année.
Bonsoir à tous.
Je crois.